On va laisser un peu la saga Eugene Melnyk de côté. De toute façon, d'après moi, on va en reparler bientôt. Allons-y avec du hockey. Les Sénateurs qui sont finalement de retour à domicile après un voyage de 4 défaites en 5 matchs. Il y a eu une défaite notamment à New York. Donc ce soir, match revanche contre les Rangers au Centre Canadian Tire. Et pour en parler, le collègue Sylvain Saint-Laurent du quotidien Le Droit est en bout de ligne. Salut Sylvain!
Salut LP.
D'abord, voyage désastreux, mais qui, heureusement, s'est terminé par une victoire à Philadelphie mardi soir. S'il n'y avait pas eu cette remontée inattendue en troisième, Sylvain, as-tu l'impression que Guy Boucher serait peut-être dans l'eau chaude présentement?
Honnêtement, non. Je pense pas que les Sénateurs sont dans la même situation que les autres équipes qui ont procédé à des changements d'entraîneur, dans la mesure où il y a beaucoup moins de pression sur Guy Boucher Que sur d'autres entraîneurs cette saison. Les Sénateurs n'ont pas la pression de gagner tout de suite. Mais je peux te dire une chose, par contre, c'est vrai que dans le cas d'un voyage comme celui que les Sénateurs viennent de vivre là, ça a surtout une différence. La victoire qu'ils sont allés chercher à Philadelphie, ça va avoir une grosse incidence sur l'ambiance dans le vestiaire. Puis je te dis, on est rentré dans ce vestiaire-là ce matin. Tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était content, encouragé, c'était positif comme climat. S'il n'avait pas remporté ce match-là, ça aurait été très, très différent dans le vestiaire.
Mais d'où ma question, parce que l'ambiance, c'est extrêmement important dans un contexte de développement aussi. Si tout le monde devient négatif, parce qu'apprendre à jouer au hockey, c'est une chose, mais il faut apprendre à gagner, à avoir du caractère aussi. Tu ne veux pas te retrouver non plus dans des séquences de 8 ou 9 défaites de suite, là.
Ben, tu sais, écoute, là, on a parlé en masse du négatif avec les Sénateurs depuis le début de la saison. Là, c'est certain que c'est pas une équipe qui se dirige pour participer aux séries, mais il y a des éléments positifs aussi. Puis en tête de liste, moi, je pense que t'as affaire à une équipe qui abandonne jamais, qui lâche jamais, qui croit toujours qu'elle peut gagner. Ça, peut-être que ça a un petit peu à voir avec la naïveté de certains jeunes joueurs là, qui réalisent pas tout le temps dans quel genre de situation ils sont. Mais ça donne du hockey excitant. Mais c'est certain que pour conserver cette attitude-là, puis c'est cette idée-là que tu peux tout le temps gagner puis revenir de l'arrière, ben encore faut-il que tu complètes le travail une fois de temps en temps, puis oui, que tu en gagnes une de ces. Fait que si tu perds tout à un moment donné, ben là, l'esprit défaitiste va gagner le vestiaire tranquillement pas vite. Mais je peux te dire pour tout de suite, là, je me suis arrêté ce matin dans le vestiaire, j'ai écouté un petit peu de Brady Tkachuk, un petit peu de Drake Batherson. Puis c'est affaire à des jeunes hommes qui sont de très, très bonne humeur, puis qui pensent qu'ils peuvent gagner chaque match comme ils ont gagné contre les Flyers mardi.
Tant qu'à parler de positif, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas juste du négatif à Ottawa, loin de là, mine de rien, là, si ça continue, Sylvain, Tkachuk, justement, avec ses 16 points en 14 matchs, devra être considéré pour le Calder, pour la recrue de l'année. Même chose pour le trophée Norris, meilleur défenseur, dans le cas de Chabot, avec ses 29 points en 25 matchs. Je dis pas qu'ils vont les gagner, mais ils vont être dans la discussion si ça continue.
Ben écoute, Tkachuk, tant qu'à moi, là, avec ses récentes performances, j'ai pas le nombre de points, là, mais les 3-4 derniers matchs, il a produit pratiquement un rythme de 2 points par match. C'est clair, là, il s'est ramené dans la course avec Elias Pettersson. Puis s'il n'avait pas été blessé en début de saison, il y aurait peut-être plus de points que Pettersson en ce moment. Moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant. Là. On nous dit toujours que c'est difficile pour un jeune joueur de suivre le rythme de la Ligue qui s'améliore constamment. Il faut surtout pas que les jeunes se blessent pour pas qu'ils perdent de terrain. Mais Tkachuk, il a raté pratiquement 10 matchs à la fin octobre avec sa blessure à la jambe. Puis quand tu le regardes jouer, ça paraît pas trop. Et il a l'air d'un joueur beaucoup plus vieux qu'il est en réalité. Puis il a l'air d'un joueur en grande forme qui a pas raté une seule minute de jeu depuis le début de la saison. Bon, évidemment, ça doit forcément aider de jouer avec Mark Stone soir après soir. Tu sais, des fois, on parle d'un joueur qui rend tout le monde autour de lui meilleur. Mais je sais pas s'il y en a d'autres dans la LNH en ce moment qui font ça mieux que Mark Stone. Mais le jeune Tkachuk, en ce moment, il encaisse.
Mais je vais te dire que Tkachuk aussi, en ce moment, rend Stone meilleur. C'est assez impressionnant. Il me fait beaucoup penser à Gallagher, plus gros, plus grand, puis un peu plus de talent. Il est toujours dans le trafic.
Ben oui, pour le trafic. Plus gros, pas encore tout à fait. Physiquement, là, Brady Tkachuk, quand il va prendre justement sa shape de d'homme, finalement, quand il va prendre peut-être un 20-25 livres de muscles, il va être un monstre. Il est grand, il est imposant, les épaules larges. Pour l'instant, ça reste un ado, là, mais je te dis, le jour où il va avoir vraiment fini son développement physique, il va faire peur aux gens.
Prochaine question, un peu plus délicate parce que ça concerne un jeune défenseur qui est vite devenu un chouchou des partisans en début de saison. Et on a vu aujourd'hui que le Canadien a cédé Victor Mété dans la Ligue américaine. Et je veux faire un lien avec Maxime Lajoie, que j'aime beaucoup, mais qui connaît une baisse de régime, il faut être honnête. Le pire différentiel chez les défenseurs des Sénateurs présentement à moins 11. Avec le retour de Harper, pas sûr qu'il a encore sa place dans le top 4, en tout cas pas présentement. T'en penses quoi, Sylvain?
Ben non, c'est une bonne analyse, vraiment. Puis c'est bien de faire la comparaison avec Victor Mété, parce que effectivement, t'as raison. En fait, là, moi, je pense que Maxime Lajoie, c'est peut-être celui qui se ramasse dans la pire situation parmi tous les jeunes des Sénateurs, parce que dans une équipe normale, là, une équipe en construction normale, Lajoie devrait être dans un troisième duo. Et puis peut-être même, je vais aller plus loin que ça, là, je te dirais, moi, si j'étais l'entraîneur, j'aimerais ça avoir le luxe de ne pas l'utiliser chaque soir, Maxime Lajoie. Pour des situations comme celles qu'on vit en ce moment, si jamais tu vois là, qu'il y a une baisse de régime, commence à trouver que ça brasse pas mal et que ça va vite dans la Ligue nationale, ben, tu peux juste le calmer un petit peu, le retirer de la formation, un match ou deux, l'amener justement à se reposer puis à repartir en force. Moi, je pense qu'ils sont pas rendus au point de le renvoyer dans la Ligue américaine parce que, bon, ils savent que quand il est en forme, quand il est en confiance, il peut jouer du gros hockey. Mais c'est effectivement, je pense, ce que tu vas voir dans les prochains matchs, c'est ce que tu as dit. Ben Harper va jouer avec Cody Ceci. Ne serait-ce que lui, il est rendu au stade de sa carrière, Harper, où il a besoin d'avoir cette opportunité-là. Les Sénateurs doivent lui donner sa chance avant de décider s'il continue de construire avec lui ou non. C'est que Harper va jouer dans le deuxième duo. Puis Lajoie, il va prendre un petit pas de recul. Peut-être éventuellement, si jamais ils ont sept défenseurs en santé, tu sais, t'en reviens à créer un système d'alternance où Yaroche et puis Lajoie doivent se battre pour le poste de sixième défenseur. Puis ça peut être positif. Mais pour tout de suite, je pense que Lajoie, un petit pas en recul, là, jouer une quinzaine de minutes par match à un troisième duo, déjà en partant, ça devrait l'aider.
OK, un mot sur le retour de Carlson samedi après-midi, parce que je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir se parler demain. On le sent nerveux et émotif, Sylvain. D'abord, tu t'attends à quoi de sa part samedi?
Moi, je pense qu'il va jouer un grand match. C'est un joueur qui carbure à l'émotion. C'est un joueur très, très fier et orgueilleux. Je m'attends à ce que tu l'as joué peut-être pas à Toronto hier, ça n'a pas été terrible, mais les matchs précédents à ça, on a vu un Carlson qui retrouve ses moyens. Moi, je pense qu'on va voir un Carlson qui va être très, très dangereux, qui va créer quelque chose chaque fois de voir la rondelle.
Tu t'attends à quoi de l'organisation? Il y aura évidemment un hommage pour Carlson?
J'espère. Écoute, ça va être sobre. Probablement, là, tu sais, la première pause télévision en première période, il va y avoir une vidéo, puis on va le présenter. Moi, c'est plus les partisans. J'ai hâte de voir si la présence de Carlson va faire vendre plus de billets. Moi, j'ai le sentiment que les partisans commencent à faire leur deuil. Et la vie continue sans Carlson, mais j'ai hâte de voir, c'est l'opportunité de montrer là, pour les partisans, ceux qui sont vraiment choqués qu'il y a eu cette transaction-là. J'ai hâte de voir quelle sorte d'ambiance on va avoir pour ça.
Aux dernières nouvelles, il y avait encore des milliers de billets disponibles. On verra. Je peux pas croire qu'on va le huer, Carlson. Je pense que les gens le respectent encore beaucoup. Alors, ça va être à surveiller en fin de semaine. Puis, écoute, j'aimerais savoir ton feeling. Carlson pourrait-il y aller d'une déclaration choc qui viserait Melnick ou tu penses qu'il va quand même se garder une petite gêne?
Écoute, je serais surpris. Mais en même temps, regarde, je te dirais, je suis certain à 93-94% que Carlson va être bien tranquille demain quand il va parler aux médias, qu'il ne dira rien d'extraordinaire. Mais je me garde un petit 5-6% d'espoir qui va dire ce qu'il pense pour vrai.
Oui, parce qu'on ne sait jamais avec lui, un. Et deuxièmement, ça serait une passe sur la palette de son bon ami Daniel Alfredson aussi, là.
Oui, ben là, ça, je ne sais pas, là. C'est quoi leur stratégie? Si Alfredson fait vraiment partie du groupe là, qui veut déloger Melnick, puis à quel point il est.
Ben, en tout cas, il n'est pas dans le fan club de Melnick, si on sait ça.
Ben écoute, je ne sais plus combien il reste de personnes dans le fan club de M. Melnick. En tout cas, s'il y a des gens qui le soutiennent, ils font pas beaucoup de bruit en le soutenant. Là. Mais regarde, comme je te dis, moi je me dis là, 93-94%, moi je pense qu'il va être bien tranquille en dehors de la patinoire, puis il va jouer une grosse game samedi. Mais je me garde une petite portes ouvertes, peut-être qu'ils pourraient nous surprendre.
Bon, ben, j'irai pas faire mon épicerie samedi après-midi. Merci beaucoup, Sylvain. Bon match ce soir et on te lit dans le droit demain.
C'est bon, LP.